Le samedi à 20h, c'est Papou, les amis. Pour accompagner le dîner ou votre montée de l'Alpe d'Huez sur le vélo d'appartement, dégustez nos nourritures spirituelles ludiques et nos drôles de jeux de rôle. Au menu, une colère de Jacques Jouet, des vers à la pointe pour le sens et la navette, et si j'étais dictateur, l'inventaire de mes premières ordonnances, Lucas Fournier.
J'aime cette phrase de Michel Platini qui dit « Les joueurs passent, les journalistes sportifs restent, ça a toujours été le drame de l'équipe de France. » Donc moi j'interdirais aux journalistes politiques de faire plus d'un mandat électif.
Ouais. Et puis un dépannage express pour Eva Almassi, romancière en mal d'écriture, et le DLA, un piège littéraire de Patrick Beignet, tendu aux experts Sophie Livré, Eva Almassi et Gérard Mordillat.
Par exemple, l'auto qui cornait, ça veut dire qu'on est à l'époque où il y a encore des cornets pour avertir.
Ah, ça veut dire ça, je pensais qu'elle tournait au coin.
Non.
Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. Oui, je sais, c'est court, mais pour ceux qui font une séance d'abdo-fessiers en écoutant l'émission, c'est déjà énorme. Sport et papou dans la tête, on en reparle tout à l'heure. Merci de votre fidélité à vous qui nous avez suivis du dimanche midi au samedi soir et que les nouveaux se sentent chez eux dans la maison des papous dans la tête. Vous êtes les très bienvenus.
Waouh !
Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, c'est le podcast. Facile et gratuit et comme ça, on écoute le jour de son choix. Elle est pas belle la vie ? Peut-être pas tout à fait pour Jacques Jouet, notre écrivain oulipien, amoureux de la forme. Il est arrivé en proie à une colère froide, Jacques, pas souvent vue comme ça.
La vie quotidienne, vous le savez aussi bien que moi, eh bien c'est tous les jours. D'accord, je veux bien que ce soit une lapalissade. Seulement il y a vie quotidienne et vie quotidienne, et qui ne se ressemblent pas comme deux gouttes d'eau. Il y a la vie quotidienne qui coule son chemin de fleuve tranquille sans aspérité ni cascade, et puis il y a celle qui aurait pu suivre sa route de sentier facile, sans dénivelé ascendant épuisant pour le souffle, ou dénivelé descendant trop coûteux pour les genoux. S'il n'y avait cette minuscule erreur, cette énorme faute, cette indélicatesse majeure dont la plupart des boulangers et une majorité de boulangères se rendent coupables. Voyez plutôt, vous vous faites une joie de faire l'acquisition pour manger tout de suite d'une tarte aux pommes pour le petit déjeuner, d'une quiche Lorraine à 11h, d'un éclair au chocolat ou d'une tarte aux fraises pour votre dessert de midi, d'une part de flan pour votre 4h, d'un pain complet aux graines pour le dîner. La pâtissière ou la boulangère vous l'enveloppe soigneusement et colle un scotch pour fermer le petit paquet hermétiquement. Et c'est là que la santé de votre quotidien commence sérieusement à se gâter. Vous n'avez pas eu le temps de dire « pas de scotch !» Le geste a été trop vif. Ou bien vous avez eu le temps de dire « pas de scotch », mais c'est peine perdue. La dame vous répond « Monsieur, je n'ai pas le droit de faire autrement, je vais me faire disputer par ma patronne, je vais me faire virer par mon patron. » Alors quoi ? Vous le prenez, votre paquet fermé à double tour, vous avez remis votre porte-monnaie à sa place dans votre poche, vous avez repris en main le parapluie que vous avez dû poser contre le comptoir, mais il est tombé par terre, vous avez dû le ramasser d'une main en prenant bien garde de ne pas faire tomber votre emplette, vous avez dit « merci », entendu, c'est moi. Vous avez répondu au bonne journée par un bonne journée. Vous avez dû sortir en poussant la porte de l'épaule, mais comme la porte s'ouvre vers l'intérieur, ça n'a pas été possible. Il a fallu attendre cette humiliation terrible qu'un autre client vous tienne la porte alors qu'il n'est même pas plus jeune que vous. Vous avez faim. Les effluves qui sont complaisamment dispensées par la boulangerie-pâtisserie, quand ce ne sont pas des projections artificielles émanant d'un aérosol à goût de fraise ou de beurre volatile, vous ont donné une furieuse envie de vous précipiter sans plus attendre sur la quiche Lorraine ou sur la tarte à la rhubarbe. Et là, il faut s'attaquer à ce satané ruban adhésif que la vendeuse a fixé de son geste précis, répétitif, assuré, imparable. Impossible de trouver avec longue une amorce de coin de scotch qui n'a pas adhéré. Impossible tout autant de passer un doigt par-dessous pour soulever cette languette de sûreté en tout point inutile, puisque vous avez bien précisé que c'était pour manger tout de suite, là, sur le trottoir, sans attendre le retour à la maison, tout de suite. Manger la part de flan, les deux ronds de flan au pruneau dont vous vous faites une joie anti-hypoglycémique. Mais tu vas t'ouvrir, sacré bon vieux de papier boucherie cadenassé au sparadrap. Je vais m'énerver. À tous les coups, il y a une fraise qui va se retrouver sur le trottoir, là où tous les amis des bêtes ont laissé leurs bêtes s'oublier afin qu'on se rappelle leur existence. L'éclair au chocolat va se retrouver à côté d'une merde de chien tant et si bien qu'on ne saura plus très bien distinguer lequel et laquelle.
Ça se gâte toujours.
Je n'en peux plus du ruban adhésif de boulangerie, du ruban adhésif de pâtisserie. Je demande à l'Assemblée nationale souveraine, fraîchement élue, l'interdiction absolue de vente de rouleaux de scotch aux boulangers et aux pâtissiers. Entendez-moi, sinon je vais faire un malheur.
C'est au programme des ordonnances, là, je crois.
Mais tu peux déchirer le petit papier, là. Il est léger, le petit papier qu'ils mettent autour.
En tant que boulanger, je voudrais dire une chose. Nous avons tous un grave dilemme, qui est quand le client laisse tomber son fardeau prudent.
Ouais.
Juste, alors il l'a payé, il laisse tomber. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, ne ramassez pas, si on voit là un autre.
Ouais.
Et à ce moment-là, on ruine la maison très très vite.
Si on fait exprès, oui.
Soit on le laisse ramasser, ouais. Et puis c'est des merdes. Donc il vaut mieux quand même mettre un petit... Tu préfères un ruban avec un petit nœud?
Rien du tout, je préfère qu'on me donne dans la main.
Ce qui arrive dans les boulangeries, ouais, c'est quand ils mettent la baguette dans un sachet qui est couvert de publicité. Donc on va chercher son pain, son bon pain. Et puis on arrive chez soi, puis on pose une pub pour une agence immobilière. Ouais.
Autrefois, il y a marqué manger des baguettes sur le.
Ouais, voilà.
Le sachet des baguettes, mais bon.
Ça c'est bien, voilà.
La petite annonce pour la soirée d'enregistrement des Papous. Premier rendez-vous public le vendredi 13 octobre à la Maison de la Radio au studio 105 pour Les Papous sont très sport. La réservation sera en ligne à partir de vendredi prochain 29 septembre sur le site maisondelaradio.fr et je vous en dis plus dans Les Papous du samedi 30. Place maintenant au petit Riemayer, session rentrée 2017, nouvelle séance avec deux mots au programme pour deux rédacteurs, Odile Conseil et Lucas Fournier, chargés de les raconter, ces mots, à leur façon, pour le fond en vert, pour la forme, eh bien, c'est selon leur choix, la Hugo ou Mirliton à découvrir. Odile Conseil, bon, vous êtes arrivé en studio avec une navette sous le bras et Jacques Bertrand avec un bon gros dictionnaire pour vous contrôler. Ça y est, vous êtes à la navette, Jacques?
Je suis à la navette.
Est-ce que l'article est copieux?
Non, plutôt court.
Synthétique.
Voilà. Oh,
parce qu'il y a quand même plusieurs sens, non? Je ne me trompe pas.
Oui, oui, bien sûr.
En effet.
Alors, c'est de l'octo, c'est du déca, c'est de l'alexandrin.
C'est du variable. Comme le courant.
Ajustable.
N'allez pas croire que la navette serait légume, genre feuille de bête. Elle n'est pas la femelle du navet, au potager, ni au ciné. Sachez quand même qu'ici-bas, une navette proche du colza pousserait dans les champs connus de peu de gens. Si j'en crois le dictionnaire, elle serait crucifère, cultivée comme fourrage. Voilà, c'est dit, tournons la page. La navette n'a qu'un amour, une chanson de Gainsbourg, dont elle ne connaît même pas tout le couplet, qu'elle chante d'un petit fil de soie, petit filet de voix. Je vais et je viens, je vais et je viens. La navette, elle joue pas les starlettes. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine. Toute la journée, fonce comme une fusée sur un petit parcours, la largeur du métier. Elle fait au moins chaque jour 1500 allers et retours. Une pause seulement quand on change la bobine, et puis c'est reparti, faut que ça turbine. La navette sait bien qu'il se trame quelque chose, qu'à l'atelier, la vie, ce n'est vraiment pas rose. Les ouvrières sont en colère, on a baissé leur salaire. Elles se mettent en grève, veulent briser leurs chaînes, arrêtent les métiers, les navettes se déchaînent. Que croyez-vous qu'il arriva à la navette? On la renvoya de l'usine, c'était pas chouette, mise en reconversion. Tu ressembles à un bateau, tu ressembles à un wagon, on te remet au boulot pour faire des allers et retours, des retours et des allers et des retours, vous avez compris l'idée. Qui fait la navette va d'un point A à un point B, et dans le sens inverse, jusqu'à A partant de B. Au choix, à bicyclette, en auto, en avion, en TGV, mais parfois aussi à pied. Ainsi, mon père, chaque jour, passait 10 ou 12 fois de son commerce au café, il eut une cirrhose du foie. Navette, un jour, a rêvé qu'elle volait jusqu'à la lune. On l'a photographiée, elle faisait partout la une. Ma forme s'y prête parfaitement. Avec mon corps fuselé, je fends l'air facilement. Navette spatiale, je deviens. Je pose un satellite en orbite et rentre bien vite pour repartir ensuite. Finalement, la navette est quand même devenue starlette, connue sous le nom de Discovery. Il y eut plusieurs discours, dont un du grand Fellini. Il dit, écartant les bras, Et la navette va. Vous l'attendiez, vous l'avez
oui, jolie, oui.
Elle est bienvenue.
Oui. Mais est-ce qu'on a eu le petit gâteau? Il y a un petit gâteau qui s'appelle une navette.
À Marseille, hein, il y a des gâteaux.
Oui,
oui, oui, mais alors moi, je ne sais pas. Hein. Moi, je suis du Nord, alors le gâteau de Marseille,
puis moi, j'ai un dictionnaire parisien. Donc,
Non, il n'y a pas la navette non plus. Voilà.
Et qui aurait, donc la forme d'une, d'un
oui,
petit peu.
Oui, c'est très bon.
Ça m'a sûrement échappé. Vous avez sûrement traité la navette à rançon. La navette
à rançon.
L'encensoir, en gros.
Ah oui, ah, ça s'appelle comme ça aussi.
Je savais pas.
Non.
Oh ben j'apprends des choses grâce à vous.
Bon, et la navette parlementaire.
Ouais.
Ah oui, le 49.3.
Ah non, là, c'est pas.
C'est l'idée du va-et-vient, Sénat, assemblée. Point A, point B, voilà. Considérer que dans A et B, il y a tout ce qui est possible comme type d'aller-retour.
Oui, même à l'Assemblée, oui. Mmh. Oui, vous avez un sort. Oui, vous n'allez pas la chicaner comme ça pour une petite chose politique.
Bah non, c'est très citoyen quand même, que... c'est important.
Oui, oui, c'est vrai. Hein? Enfin, elle a bien traité le social dans la navette.
Oui, ça, on était dans l'usine, ça n'a pas coupé, bien sûr. Oui.
Donc on n'est pas si loin de l'Assemblée, peut-être.
Non,
peut-être pas. Bon, Jacques Avertrois.
Alors, personne n'a osé faire une citation,
avec navette
sur la navette.
Ah bon?
Apparemment.
Ah.
Mais alors, il y a une exception régionale belge
de la navette.
Du mot navetteur.
Ah, navetteur.
Le navetteur, c'est le banlieusard belge qui fait la navette entre son lieu de travail et son domicile.
On l'appelle
un navetteur.
Ah, ça c'est drôle. Et on dit une navetteuse?
Je ne sais pas.
Oui.
Oui, on peut dire navetteuse, oui.
Ah oui?
Pour la même chose, je suppose.
Oui, c'est intéressant.
Voilà.
Qui peut inventer comme ça sur le champ une citation, puisque le dictionnaire en est dépourvu, Lucas?
Sans rien inventer, je peux citer un titre, le titre d'une pièce de Henri Beck, qui s'appelle La Navette.
Oui, exact.
Et moi, je peux citer un roman de George Sand qui s'appelle La Petite Navette.
Allez-vous cacher.
Il y a Blondin aussi. Je ne cessais de faire la navette entre le bar et la buvette.
C'est très joli ça.
Bravo. Ouais. Tenez, Patrick Beignet, vous voulez bien prendre le dictionnaire? On va contrôler Lucas Fournier sur le mot sens.
Sens.
Ouais.
Sens.
Le mot sens. Alors, c'est un mot énorme, je crois. Colossal, non?
Mais j'imagine.
Alors, vous êtes au sens?
J'y arrive, voilà. Une colonne et demie, c'est
colonne et demie,
moins grave que je ne craignais.
C'est écrit encore 8, hein. C'est très très petit. Bon, vous l'abordez comment le sens?
J'ai fait une colonne et demie aussi, de demi-alexandrin.
Oui,
six pieds normalement. Oui. Mmh. Et j'ai essayé de l'aborder le plus simplement possible.
Mmh.
Y a-t-il un sens à sens?
Ah.
Bah, vous avez 3 heures, hein, je veux de la rigueur et attention, contre-sens. Oh, je sens mes 5 sens, tous sens dessus-dessous. Commençons donc tout doux à la Camille Saint-Saëns. Abondons dans le sens du sujet façon Sartre. Sinon, c'est le désastre. Car il ferait beau voir que sens n'en eût pas un de sens. Vous l'allez voir. Selon le sens commun, sens s'écrit de la gauche vers la droite.
Oh.
Ça fait sens.
Oh.
Sinon, c'est vraiment moche. SNES.
Oui, vous le dites. Oui,
SNES. SNES a bien sûr un sens, enfin sens, signification plutôt, syndicat d'enseignants, attention, du secondaire, c'est ça, ça tombe sous le sens. Le sens mathématique ou trigonométrique va dans le sens inverse de l'aiguille des montres. C'est un mystère que personne ici ne démontre. On peut aussi aller à Sens.
Oui, la ville.
Dans le sens des départs quand on quitte Paris.
Oui.
Sens se situe quelque part dans Lyon qui rugit. Oui, ça n'a aucun sens, Lyon qui rugit. Mais c'est un jeu de mots que je trouve joli. Oui, tant de choses à mon goût manquent parfois de sens. Moi-même, j'ai perdu le sens du raccourci. Je me suis répandu un peu dans tous les sens. J'ignore le sens à la vie, le sens de la formule. Et je fais une bulle de sens qui s'épaissit dans les grandes largeurs. Plus de sens interdit que des sens inédits. Et je traîne en longueur et palpite mon cœur. C'est l'ivresse des sens.
C'est très joli. Hein.
Il a joué avec
les sens d'une façon. Ah, est-ce qu'il y a les sens, le plaisir des sens? Vous savez très bien.
Non, le reste des sens peut conduire au plaisir des sens.
Oui, c'est vrai.
Pas toujours. Hein.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez à dire?
Écoutez, je le trouve à redire au dictionnaire que vous m'avez communiqué, parce que tout ça est bien confus. Il y a beaucoup plus de clarté dans ce qu'a fait Lucas. Et je pense qu'on devrait substituer sa version à celle de Robert. Et lorsque vous avez des citations du genre « Thérèse avait moins d'esprit que lui, en ce sens qu'elle était naturellement rêveuse
oui, »
Non, c'est Georges Sand.
Ah bon ?
Mais c'est aussi régionaliste que Mauriac, finalement.
Oui.
C'est pas très passionnant.
Non, c'est vrai.
Le plus énigmatique, tout de même, c'est la citation qui termine cet article, qui est de Zola. « La grande propriété paraît aller dans le sens même de la science et du progrès. » Ou alors c'est très ironique, ou je ne reconnais plus mon Zola.
Ah oui, oui,
ou c'est un écrit de jeunesse, je ne sais pas.
Oui,
c'est,
oui.
C'est ça n'a pas de bon sens.
Ou c'est une situation de quelqu'un dans Le Bonheur des Dames,
voilà,
ou quelque chose comme ça.
Voilà ce que je peux dire.
Mais non, mais l'histoire n'a pas de sens, mais elle a une signification.
Très juste. Oui. Mais la prochaine fois, vous nous ferez une signification en Alexandre.
À bientôt.
Like a virgin touched for the very first time, like a virgin, when your heart beats next to mine, gonna give you all my love, boy. My fair is fading fast, been saving it all for you, 'cause only love can last. You're so fine, wound your mind, make me strong, yeah, you make me bold. Oh, your love thought out, yeah, your love thought out what was scared and cold. Like a virgin touched for the very first time, like a virgin, with your heartbeat next to mine.
Une version très perso de Like a Virgin par Caroline Loeb.
Je vous parle du bonheur d'écouter les papous sur France Culture le samedi.
Chacun, à un moment de sa vie, fait l'inventaire de ses goûts, de ses raisons d'aimer ou pas, de fuir, de rester, de ses envies, de ses rêves. Au Papou, nous pratiquons les inventaires collectifs parce que c'est convivial. Alors Jean-Bernard Pouy est arrivé avec une drôle d'idée de sujet d'inventaire. Si vous étiez dictateur, qu'est-ce que vous interdiriez immédiatement par ordonnance? Des réflexions à partager avec Odile Conseil, Jacques Vallée et Lucas Fournier. C'est votre sujet, c'est donc à vous de dire en premier, Jean-Bernard Pouy.
Alors tout de suite, j'interdirai dans les restaurants tout ce qui est à la plancha et dans les cafés tout ce qui est happy hours.
Quand on dit gambas à la plancha, c'est...
Il n'y a pas d'assiette, donc on te met ça sur des planches.
Mais c'est cuit sur des planches.
Ça dépend.
À Deauville?
Ah oui.
C'est cuit sur des planches.
Oh, de toute façon, il a dit que c'était par ordonnance, alors on n'a rien à dire.
Happy hours, pour qu'on ne dise pas moments heureux.
Vous êtes d'accord, Odile?
Mais il y a aussi un truc que j'interdirais dans les cafés et les restos, ce sont les écrans de télé qui vous happent le regard pour généralement contribuer au décervellement général. Mais bon, par amitié pour Lucas, il serait permis d'en installer pendant la Coupe du Monde, des trucs de foot ou le tournoi des Cinq Nations.
Et le tennis, par amitié pour moi?
Par amitié pour vous, Françoise, mais à titre exceptionnel.
Lucas Fournier.
Justement sur le sport, en tant que dictateur, j'interdirais au moment des grands matchs aux sportifs de chanter la Marseillaise, parce que c'est trop faux.
Remarquez, les hommes politiques ne sont pas bien justes non plus quand ils la chantent.
Eux aussi.
Jacques Vallée.
Moi, j'interdirais dans les cafés des portables. Je les interdirais dans la rue, dans les magasins, dans les trains, et même dans une crise d'autorité, je supprimerais le portable sur tout le territoire.
Ah, voilà une belle ordonnance. Mais il n'en a pas, lui. Jean-Bernard Pouy.
Moi, j'interdirais les soldes toute l'année.
Ah bah oui.
Ou alors faire le prix des soldes toute l'année. C'est-à-dire baisser les prix.
Ah bah voilà, ça c'est une sage décision. Disons les choses franchement. Lucas Fournier.
Moi, j'interdirais les cellules de soutien psychologique.
Ah.
Parce que même dans une dictature, les individus doivent pouvoir assumer leurs actes et pouvoir faire face tout seuls. Donc non aux cellules de soutien psychologique.
Oui, c'est une sage décision. Je ne sais pas si elle est sage d'ailleurs, cette décision, mais C'est-à-dire que l'abus des cellules de soutien psychologique est vraiment horripilant.
Les gens les interdisent. Oui. Mais peut-être même les psychologues, les psychanalystes, tout ce qui est psy.
Oui, mais alors vous mettez un tas de monde au chômage.
Oui, mais je sais, même de proches. Ce sera mal vu, mais je m'exprime quand même.
Ah, vous êtes dictateur, vous avez le droit, là, pendant quelques minutes. Jacques.
Moi, j'interdirais les films comiques franchouillards, genre Danny Boone ou France Dubosc.
Ah oui. Quand même, bienvenue chez les ch'tis, quoi.
Mais la fille de Douai qui est avec nous, là où dit le conseil, elle n'est pas d'accord. Il va faire un effort, Jean-Bernard.
Moi, j'interdirais les villes balnéaires chics ou de luxe. Genre La Baule, Deauville, Le Touquet, Cannes, tout ça, enfin bref. Parce que, en tant que dictateur, hein, j'ai forcément été élu par des pauvres congés payés. Donc, c'est quand même se moquer d'eux de maintenir ce genre de cité balnéaire.
Et vive le Tréport.
Voilà, le Tréport, Merceau-Plage, Stella-Plage, oui. Les Sables d'Olonne,
Cailleux-sur-Mer,
Cailleux, le Cap d'Agde.
La dictatrice Odile Conseil, qu'est-ce qu'elle interdit? Les femmes aussi interdisent, hein. Et violemment. Hein.
Dans le même genre que JB, j'interdirais les yachts qu'il y a à Saint-Tropez, les yachts à 12 étages qui gâchent la vue quand on est installé chez Séné, qui est tout simplement insupportable.
Lucas.
Moi, je fais un peu de politique et donc j'aime cette phrase de Michel Platini de 1986 qui dit « Les joueurs passent, les journalistes sportifs restent, ça a toujours été le drame de l'équipe de France ». Donc moi, j'interdirais aux journalistes politiques de faire plus d'un mandat électif.
Voilà. Moi, dans les trains, les bus ou autres, j'interdirais les places dans le sens contraire de la marche.
Ah oui, je suis d'accord. Oui, Lucas,
sur les transports en commun, moi, j'interdirais aux gens qui ne se sont pas lavés de monter le matin dans un bus ou dans une rame de métro.
Pourquoi tu me regardes quand tu dis ça?
C'est-à-dire qu'il y aura un pédiluve obligatoire à l'entrée de chaque station de métro.
Odile.
Moi, pour rebondir un peu sur ce que disait Lucas tout à l'heure, j'interdirais les commentaires sportifs d'après-match, qui sont généralement d'une vacuité confondante, où le capitaine de l'équipe explique que son équipe a pourtant tout donné, ou qu'ils n'étaient pas au mieux de leur forme, ou qu'ils ont joué de malchance.
Oui, mais il y a de la qualité dans cette équipe. Je crois qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres.
Pour rester dans le sujet,
Jacques.
J'interdirais les salaires mirobolants. Par exemple, je paierais les footballeurs au SMIG.
Bon, et puis, pourquoi vous voulez qu'ils soient? Pourquoi ils n'auraient pas un petit salaire de cadre
au SMIG.
Non, mais c'est un dictateur un peu extrême. Non,
À moins que j'abolisse l'argent en remplaçant par le troc.
Il est prêt pour la Corée du Nord, hein, Jacques.
Oui, il est bien parti. Oui, vous avez...
Mélenchon, la Corée du Nord.
Oui, elle veut rebondir, Odile.
Oui, sur les histoires d'argent, moi, j'interdirais les stock options, mais pas les stock fiches, les bonus, mais pas les bonnes mamans, les retraites chapeaux, mais pas les chapeaux l'artiste. Les parachutes dorés, mais pas Julien Doré. Les fonds vautours, mais pas les aigles royaux.
Oh là, mais il y a du travail là-dessus.
Oh là 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 là.
La classe.
Lucas.
Moi, j'interdirais la lecture des romans de deux écrivains français qui sont Pierre Loti et Joseph Peyré.
Ah bon?
Oui, parce que rien de tel qu'une bonne censure pour booster les ventes.
Ah, voilà, c'est parce que vous aimeriez qu'on les relise.
Oui, Escadron blanc. Oh, c'était beau ça.
Sans les lumières.
Joseph Peyré.
Ah oui, je n'ai jamais lu Joseph Peyré. J'avoue mon ignorance, donc je vais m'y mettre tout de suite. Dès demain matin, Jacques.
J'interdirais les laisses, les caches, les cirques, les corridas. Je donnerais une citoyenneté aux animaux.
Ah!
Même aux frelons asiatiques.
Même aux poux.
Même aux tiques.
C'est de longue haleine. Il y aura quand même des espèces qui ne sont pas prioritaires.
Et vous commenceriez par quelle espèce?
Déjà les singes.
Ah oui.
C'est nos frères.
Donc ils auraient un prénom, un nom de famille, une adresse autre que celle
du
zoo.
Une carte d'identité.
Odile.
Alors j'interdirais les vieux râleurs, ceux qui pensent que leur mauvaise humeur générale est autorisée à croître avec le nombre des années.
Oui.
Ceux qui sont persuadés.
Ceux qui sont persuadés que tout était mieux avant. J'interdirais aussi les enfants capricieux et braillards, les jeunes désœuvrés et les éditorialistes pontifiants.
Des noms. Lucas Fournier.
Alors moi, j'interdirais la musique dans les avions au moment de l'atterrissage ou du décollage.
Ah, oui.
Parce qu'avoir peur de mourir, d'accord, mais avoir peur de mourir en entendant l'air d'Amélie Poulain ou bien Céline Dion, ça, c'est pas
c'est
possible.
C'est pire que
non,
tout.
Non, c'était encore pire, oui.
Je veux mourir dans le silence, dit Lucas. Jean-Bernard Pouy.
Mon rapport avec la Ligue de protection du cœur et de la lutte contre les maladies cardiaques, j'interdirais les ascenseurs, dans les maisons de moins de 10 étages, de façon que tout le monde fasse obligatoirement du sport. Ce qui ferait quand même
c'est
beaucoup
pas
de
bête.
Bien.
C'est
ça
pas
musclerait
bête.
Le cœur et il y aurait moins de bordel dans les hôpitaux.
Un petit ascenseur pour les handicapés quand même et pour les gens avec poussette.
Je interdirais les handicapés.
Non, ça musclerait aussi les bras quand on a des packs d'eau et des courses à remonter.
Moi, j'interdirais les packs également. Bouteille par bouteille.
Moi, j'interdirais l'usage de l'expression plante sauvegarde de l'emploi pour parler de licenciement. Et je pense même que je ferais fusiller celui ou celle qui a inventé cette expression.
Ah, carrément,
carrément.
Fusiller. Ah oui, alors, c'est lourd, hein, ah, quand même. Ça, ouais. Lucas Fournier, encore une interdiction si vous étiez dictateur.
Très importante celle-là, oui. La plus importante de toutes. J'interdirais l'utilisation des 4 saisons de Vivaldi sur tous les standards d'accueil téléphonique. Voilà.
Même le printemps, vous ne sauvez pas le printemps rien. De Vivaldi, rien du, tout. Rien du tout.
Alors pour sauver la poste,
oui.
Les
bah
bureaux
oui,
de poste,
oui.
Les facteurs
oui.
Et les factrices,
oui.
Interdiction de ne pas écrire au moins une carte postale par semaine.
Ah oui.
Voilà, comme ça, c'est réglé.
Jacques Vallée.
J'interdirais, je combattrais tous les autres dictateurs sur la planète.
Normal.
Et je tuerais tous les affreux avant.
Les méchants, les bêtes. Les...
Comme dit Boris Vian.
Ouais.
Il faut y aller. Quand on est dictateur, il ne faut pas mégloter.
Lucas.
Bon, alors moi, j'interdirais tout ce qui est petit. Le petit café du petit producteur, la petite pause dans un petit boui-boui, le petit pipi dans un petit coin, le petit somme dans un petit hôtel, le petit moment de solitude, le petit gars de chez nous. Non. Dans une dictature, on voit grand.
Les papous, c'est dans la tête. Et c'est sur France Culture, au micro, Françoise Trossard. Et la bande des papous du samedi soir à suivre. On achève bien les romans. Et le DLA, le piégeur, ce sera Patrick Beignet, les experts Eval Massy, Sophie Divry et Gérard Mordia, du très lourd en matière d'expertise, du très fin aussi. Mais avant de jouer les experts, Eval Massy va nous confier son problème de roman. Elle serait en panne, perdue au beau milieu d'un projet. Elle cherche désespérément un bricoleur de l'écriture et des idées pour la remettre sur les bons rails. On achève bien les romans, Eva, pour qu'ils soient publiés. Donc, c'est quoi ce projet inabouti?
Alors, bien sûr, comme je n'achève pas mes romans dans la réalité non plus,
oui.
J'ai pris pour sujet le temps.
Oui.
Ouais. Et le roman s'appelle « La moitié du temps ».
Oui, bah, c'est un bon titre déjà.
Il s'agit d'un roman d'anticipation qui avait déjà plusieurs titres de travail, parce que je peux passer des semaines à trouver des titres, hein, rien que des titres. Ça s'appelait aussi « La fêlure de l'heure » ou « La folle du cadran ». Et donc, finalement, c'est devenu « La moitié du temps ». Mais le mot « moitié » est à prendre ici au sens de la femme ou de l'épouse du temps, qui est, lui, figuré.
Ah oui.
Et donc, je vous lis le prologue.
Oui.
Et ensuite, vous verrez où je me suis bloquée. À quelques années de notre époque, l'homme n'a pas encore déménagé sur Mars, mais tout est devenu tellement encombré sur notre planète qu'il ne reste plus assez de temps sur Terre pour tout le monde. Plus personne n'a les moyens de vivre à plein temps. On est soit du matin, soit du soir. Ou encore, on est un intermittent et on oscille entre les secondes et les millisecondes. Le temps passe vite et vous ignorez avec qui vous partagez ainsi votre existence. En dehors de cette contrainte et malgré cette pénurie, vous pouvez faire vos études, exercer la plupart des métiers, fonder une famille. Tout le monde fait tout en même temps, dans le même temps. Alors déjà, ici, je voulais consulter Hervé Le Tellier pour lui demander si dans cet univers un petit peu feuilleté où on peut vivre sur les deux versants de la même heure, est-ce que, par exemple, 100 mètres se courent en moins de 5 secondes ou au contraire en 20 secondes? Donc, est-ce que ça se rallonge ou ça se... C'est très difficile, la relativité du temps. Donc, je vais lui écrire une lettre.
Oui, voilà. c'est la meilleure solution.
Alors, l'héroïne Dominique est fleuriste. Elle possède une jolie boutique et son mari s'appelle lui aussi Dominique. Do et Domino, facile pour eux de faire la bête à deux dos et vite fait par conséquent pour leurs jumeaux de venir au monde. Désormais, la petite famille est au complet. Do et Do égale 4. Et les petits ont nom Daniel et Daniel. Seulement, pour Mrs. Do, la fleuriste, ça commence à aller mal. Elle n'arrive plus à rien faire. Plus exactement, elle compose par exemple un beau bouquet pour un client. Elle choisit les fleurs, œillets, fraisias, gerberas, orchidées, lys blancs, les réunit, les arrange, elle noue et recoupe les tiges, fait bomber l'enveloppe en cellophane, colle son étiquette dorée dessus, encaisse le prix, dit au revoir à l'acheteur qui fait teinter le carillon de la porte en ressortant. Mais, quand la fleuriste lève la tête vers l'horloge, au lieu des 5 à 6 minutes requises pour la chaîne d'opération habituelle qu'on vient de décrire, 1 heure entière est passée.
C'est tombée beaucoup, c'est pas dans très rentable, oui.
À son domicile, pareil. Fait-elle cuire un œuf à la coque? La vieille pendule, au lieu d'avancer de 3 minutes, tic-tac, tic-tac, se met à sonner les heures, bang, 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 bang. Les œufs sont durs, la vie devient du même métal. Une seule conclusion, l'inconnu avec lequel Domino partage son quota temporel est devenu chronophage et mange tout son temps. Les jours passent, les semaines avec, elle doit trouver son double gourmand, le remettre dans le bon chemin, c'est-à-dire à mi-chemin, à mi-temps, 50-50, moitié-moitié. C'est alors, mais c'est aussi à ce point-là de l'histoire que je me suis bloquée, c'est alors que le bon peuple de ce lointain pays futuriste élit pour souverain un jeune homme que tous surnomment le maître des horloges. Domino demande audience et l'obtient, seulement elle ne réussit jamais à arriver à l'heure au rendez-vous. Le problème, c'est que à partir de là, mon roman a pris des allures du château de Kafka et j'ai fini par abandonner ma Dominique ni queue ni tête. J'ai des pistes que j'ai successivement envisagées. Voyage intersidéral, rajeunissant ou l'inverse, genre 2001, l'Odyssée de l'espace, retour vers le futur, demander conseil à Einstein. Parce que si je retourne dans le passé,
ben,
je
vous peux le rencontrer bien
comme
sûr.
Coach.
Oui.
Conte des mille et une nuits, vol au-dessus d'un nid de coucou suisse, puisqu'elle devient folle dans l'histoire, à la recherche du temps perdu, bien sûr, le temps retrouvé, etc. Tout est à présent au fond d'un tiroir et je commence sérieusement à ressembler à mon personnage et ne plus savoir où passe mon temps, pourquoi je tourne à vide. Est-ce Jacques Jouet ou Gérard Mordiat qui dispose de ma part allouée qui, eux, vous écrivent des 500 pages tous les ans?
C'est possible, c'est possible.
Allez savoir.
Mais c'est une autobiographie, quasiment.
Oui.
Alors, on va chercher quelqu'un qui pourra se glisser dans votre peau et vous dépanner, évidemment.
Ah ben, j'espère. Parce que vraiment, ce serait thérapeutique dans mon cas.
Oui. Jacques Jouet. Vous voulez bien être le thérapeute d'Eva Almassi et l'aider à finir enfin un livre, parce que des livres, elle en a achevé, mais pas récemment. Est-ce que vous avez des idées pour l'aider?
Ouh.
Ah là 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 là.
C'est un roman qui, à mon avis, ne peut être achevé que d'une seule façon.
Oui.
Laquelle? Je ne sais pas encore.
Ah.
J'y réfléchis, je prends mon temps. Pour terminer un roman sur le temps, il ne faut pas se précipiter. C'est délicat, il faut y aller avec des pincettes. Les pistes envisagées par Eva ne sont pas des fins, ce sont des continuations.
Ouais.
Elles ne font que différer la question de la fin, qui reste entière. Attendez, je réfléchis, laissez-moi le temps. Le temps. C'est magnifique, cette idée de la maladie du temps. Maladie évidemment incurable. Ça demande un traitement radical. Pas de demi-mesure. Il faut que vous me laissiez un peu de temps. C'est ça, oui, je comprends.
Moi, je paye à l'heure.
Attendez, ne me troublez pas. Il ne faut pas achever que le roman. Mais oui. Il faut achever le personnage principal.
Ah non.
Il faut achever le patient. Il faut achever le temps.
Allez.
Comment faire? À mon avis, il faut l'achever résolument, euthanasiquement, poétiquement, répétitivement. Comment faire?
Oh, il est très inquiétant. Moi, je ne vous aide pas, c'est vous qui m'aidez. Hein.
Comment faire? Comment faire? Comment faire, comment faire, comment faire, comment faire? Comment faire pour tuer pas le temps? Ben voilà, c'est fait. C'est comme ça qu'il faut faire.
Je vais foutre, foutre.
Alors, à mon avis, vous n'écrirez plus jamais une ligne.
C'est terminé, je suis allée chez le mauvais docteur.
Oui, ça, il faut vous faire rembourser.
Ben, il a le même problème que moi.
Exactement, exactement. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour aider Eva, Jacques Vallée, une idée?
Ben, c'est-à-dire que moi, j'irais du côté du temps retrouvé de Proust et je penserais à l'auteur de raconter sa vie. Depuis son enfance, et donc ce serait tellement personnel qu'elle nous dirait les problèmes...
Son sujet.
Son sujet. Et donc, je suis sûr qu'elle décrirait 500 pages sur tous ses souvenirs.
Il n'a pas tort, Jacques Vallée, ouais. Vous devriez faire ça, Eva. Ouais, Gérard, peut-être. Une idée.
Oui. Bah, au fond, moi, je pense qu'Eva devrait écrire des minutes.
Voilà.
Ah, voilà, ça, c'est bien.
Oui. Oui. Avec une petite musique de Jackie Quartz, et vous appelleriez ça du côté de chez Swatch.
Down the way where the nights are gay and the sun shines on the mountain top, I took a trip on a sailing ship and on my way to Jamaica made a stop. Eu fiz esse sambinha só pra você me olhar. São só umas notinhas porque eu não sei sambar.
Rosemary Stanley, Jamaica Farewell. Les papous dans la tête, le samedi soir sur France Culture. Dernière séquence jusqu'à 21h, le DLA, ou diagnostic littéraire à l'aveugle. Alors en piste, quatre écrivains. Eva Almassy, Patrick Beignet, Sophie Divry et Gérard Mordia, tous quatre fins connaisseurs de la chose littéraire. Ils ont beaucoup écrit, mais beaucoup lu aussi. Ce sont des gens cultivés et joueurs, puisqu'ils sont papous dans leur tête. Patrick Beignet a donc joué à dénicher dans sa bibliothèque un petit morceau de littérature à livrer anonymement à Sophie, Eva et Gérard qui joueront les experts. Et la question importante de ce jeu, c'est qui est l'auteur de l'extrait choisi par Patrick Beignet, avec des arguments littéraires si possible. Après, bon, on perd, on gagne, c'est un jeu, c'est pas grave. Patrick Beignet, vous nous lisez les quelques lignes que vous avez choisies.
Nous étions assis sur des chaises de paille de la salle à manger, dans une de ces vieilles et délicieuses maisons de campagne des environs de Paris. Par une longue et étroite fenêtre descendant jusqu'au dallage en pierre, parvenait de temps à autre le roulement d'un train ou le bruit d'une auto qui cornait, et sur le papier peint verdâtre orné de fleurs, palpitait faiblement le reflet des bûches brûlant dans la cheminée, où notre hôte, le peintre appelé « la montagne » à cause de sa corpulence, faisait rôtir à une broche de fer posée sur un trépied un imposant quartier de bœuf. Sa femme, debout devant une petite table vernie, apprêtait la salade dans un immense saladier, avec les jolis gestes qui ravissaient chaque soir ses auditeurs sur le boule miche quand elle leur servait, accompagnée de ses gestes, quelqu'une de ses piquantes chansons. Le marchand d'objets d'art, un petit homme sec, la surveillait de sa chaise et, quand elle saisissait l'une des carafes contenant huile et vinaigre, elle attendait toujours son signe de tête. La responsabilité était trop grande pour une si petite personne. La conversation, en face de ce grand quartier de bœuf ruisselant de graisse, tournait autour du matérialisme de la philosophie allemande, lequel mécontentait profondément la montagne.
Ah oh là là ! Ah oui ! Quelle histoire, quelle histoire ! Il y a des personnages, puis le bœuf aussi, qui a son importance, puis la montagne, et puis elle. Est-ce que vous avez comme ça une première impression, Gérard Mordillat ?
Ouais, ma première impression, c'est que c'était un texte de Patrick Bénier lui-même.
Ah bon ?
Oui, je pense qu'il aurait pu écrire ça, parce qu'il y a de l'ironie, puisque sur la philosophie matérialiste allemande, et puis c'est quelqu'un qui a lu visiblement aussi Gulliver, puisque on a des personnages qui sont très grands, la montagne, sa femme, l'imposant quartier de bœuf, l'immense saladier, et puis un personnage qui est très petit, qui est le marchand d'objets. Donc il y a une sorte de mémoire de Gulliver dans ça, et je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre de la fantaisie dans ce texte. C'est pour ça que je pensais à Patrick Bénier, même si je sais qu'il n'aurait pas l'audace de présenter un de ses textes.
Non, la pudeur, la pudeur. Sophie Divry, vous, comment réagissez-vous face à cette lecture ?
Je ne sais pas si on est au Moyen-Âge ou dans les années 60, parce qu'à la fois on fait rôtir un quartier de bœuf avec un papier peint verdâtre orné de fleurs, hein, qui fait plutôt, en effet, les vieux hôtels des années 60. Bon, il y a le peintre et sa femme qui accueillent nous. Nous étions assis. Il y a un marchand d'objets. On ne sait pas combien ils sont. Le peintre et sa femme sont censés aussi être des restaurateurs sur le Boulmich, donc à Paris, le boulevard Saint-Michel. C'est bien ça, hein, je suis pas parisienne, donc je veux bien qu'on me confirme.
Oui.
Mais là, ils sont à la campagne. Ils sont à la campagne.
Et alors, ça vous mènerait à quoi ? À une traduction ?
Ça pourrait ramener une traduction, parce qu'il y a quelque chose d'un petit peu typique, quand même. Un peu typique français, là-dedans.
Trop typique, alors ?
Pas forcément trop typique, mais il y a quand même une scène un petit peu, voilà. On mange de la viande, on discute, le boulmiche et tout.
Et Valmassi, c'est l'œil d'un touriste ?
Non, je ne crois pas. Enfin, j'ai fait comme Gérard et j'ai fait la liste des petits et la liste des grands. Alors qu'au début, c'est vrai, avec le « nous », dans ces vieilles et délicieuses maisons, je croyais en faire partie. Et puis tout français que ce soit, et justement trop français, ça commençait à devenir de plus en plus étrange. Moi, je pense que c'est quand même écrit en français avec des notations bien d'ici. Et quant à la philosophie allemande dedans, ça peut toujours servir, quoi. Ça sert à table, ça sert en nageant, ça sert peut-être même en analysant un texte.
Bon, Gérard Mordillat, piste stricto française, ou traduction peut-être, ou écrit par quelqu'un qui vit à Paris mais qui n'est pas forcément français.
Non, je pense que c'est écrit directement en français, je n'arrive pas.
Il y a des arguments par rapport au choix des mots
Par exemple, il y a une chose qui d'ailleurs nous donne peut-être aussi une indication sur la date de l'action, je dis pas de la rédaction, mais de l'action, c'est l'auto qui cornait. C'est sûr que aujourd'hui, éventuellement, on klaxonne, mais qui cornait, ça veut dire qu'on est à l'époque où il y a encore des cornets pour avertir.
Ça veut dire ça, je pensais qu'elle tournait au coin.
Non.
De toute façon, on ne dit plus auto maintenant. Voilà. C'est aussi daté de vie.
Donc voilà, je pense qu'on est dans un texte écrit vraisemblablement avant la guerre de 39-45 ou juste après, et d'un auteur très français dans sa conception du monde, avec les chaises de paille, les délicieuses maisons de campagne, le papier peint verdâtre, etc. Parce que
il y a toujours le bon qualificatif.
Oui, il y a toujours ça, parce que le papier peint verdâtre orné de fleurs qui palpitait. Non, mais l'image est très belle. Donc c'est quelqu'un qui adhère à ce décor.
C'est une écriture poétique, vous diriez, Valmassi ?
Non, mais c'est pittoresque. Donc, peut-être non seulement la montagne est peintre, mais l'auteur, en tout cas, il sait dépeindre. Je pense aussi à une époque, soit entre les deux guerres, soit années 40-50. Et puis...
enfin, on cornait elle... plutôt dans les années 20. Non, maintenant que vous avez appris le sens du mot, Sophie, vous êtes d'accord ou pas?
Non, je pense que même un petit peu plus tard, on cornait encore. Même dans Sagan, comme si j'avais lu ce mot. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que on veut quand même vendre quelque chose à ce marchand, puisque cette même femme qui est capable de captiver son auditoire boulevard Saint-Michel, là, guette tout assentiment de sa part. Et il y a une immense responsabilité parce que sans doute il ne faut pas le mécontenter afin qu'il rapporte quelques tableaux.
Oh. Mais il ne parle pas de tableaux, il parle de matérialisme dans la philosophie allemande.
Mais en même temps, ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, ils tiennent cette conversation alors que et la montagne qui semble éloignée, ça le mécontente, mais on n'a pas l'impression qu'il s'en mêle. Sa femme, elle, est toute à sa cuisine. Et donc, il y a d'autres personnages que nous ne voyons pas qui mènent cette conversation.
Mmh. Bah, et notamment le jeu de ce « nous ».
Je reste quand même sur mon idée de la traduction, même si c'est plutôt bien traduit. Parce qu'il y a quand même ce côté très français. Ça serait une bande chemin de... d'écrivains étrangers vivant en France depuis longtemps, dans les années 20-30, peut-être même fréquentant des peintres, invités à force de fréquenter sur le Boulmich, se troquer, étant invités dans la maison de campagne, se retrouvant là, et décrivant ça comme quelque chose d'assez typique français. D'ailleurs, peut-être que même de décrire la femme debout devant une petite table vernie, apprêtant la salade, rien que déjà pour un étranger, ça peut déjà faire pittoresque.
C'est le cliché, quoi.
Oui, tout est
cliché.
Mais c'est vrai, je serais sur la même période, entre les années 20 et les années 60.
Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'auteurs étrangers pour être dans le cliché. En France.
Évidemment. Patrick Beignet, vous voulez bien nous relire ce texte fait question.
J'entends cela, oui. Nous étions assis sur les chaises de paille de la salle à manger dans une de ces vieilles et délicieuses maisons de campagne des environs de Paris. Par une longue et étroite fenêtre descendant jusqu'au dallage en pierre, parvenait de temps à autre le roulement d'un train ou le bruit d'une auto qui cornait, et sur le papier peint verdâtre orné de fleurs, palpitait faiblement le reflet des bûches brûlant dans la cheminée, où notre hôte, le peintre appelé la montagne à cause de sa corpulence, faisait rôtir à une broche de fer posée sur un trépied un imposant quartier de bœuf. Sa femme, debout devant une petite table vernie, apprêtait la salade dans un immense saladier, avec les jolis gestes qui ravissaient chaque soir ses auditeurs sur le Boulmich, quand elle leur servait, accompagnée de ses gestes, quelqu'une de ses piquantes chansons. Le marchand d'objets d'art, un petit homme sec, la surveillait de sa chaise, et quand elle saisissait l'une des carafes contenant huile et vinaigre, elle attendait toujours son signe de tête. La responsabilité était trop grande pour une si petite personne. La conversation, en face de ce grand quartier de bœuf ruisselant de graisse, tournait autour du matérialisme de la philosophie allemande, lequel mécontentait profondément la montagne.
C'est peut-être parce que Patrick le lit particulièrement bien, mais on voit les images. Hein, c'est très cinématographique. Qu'est-ce qui va se passer, Eva? Est-ce que c'est dans un roman et est-ce que tout est de cette teneur, c'est-à-dire une suite de petits tableaux comme ça?
Non, je ne crois pas que ce soit un roman. Je crois plus à des nouvelles. De plus ou moins grande longueur. Je pense qu'ils vont manger du bœuf ce soir. Peut-être même accompagné de salade. Oui. Là, je m'y risque.
Et dans la nouvelle suivante, ils vont manger une tarte aux pommes.
Je sais pas. Peut-être vont manger du tableau.
Vous pensez aussi à des petites nouvelles, comme ça, un regard sur la ville?
Oui, je suis d'accord avec Eva. Je sens pas là un long texte. Je pense qu'il y a une action qui va se dérouler. Alors, est-ce qu'on est dans l'auberge rouge? Est-ce qu'il va y avoir une action criminelle? Est-ce qu'il va y avoir, au contraire, une discussion qui soudain va devenir une discussion philosophique à la mode de Dostoïevski sur le matérialisme, la philosophie allemande? Ça, je le crois pas vraiment parce que j'y vois là plutôt de l'ironie dans ce passage-là. comme si, bon, évidemment, discuter sur le matérialisme de la philosophie allemande, on a autre chose à faire quand on a une pièce de bœuf qui cuit.
Au contraire, je pense que c'est pour être lourd, parce qu'il y avait cet aspect de Gulliver, et là, on est dans du lourd. D'ailleurs, la conversation tourne comme on fait tourner le rôti. C'est le même mouvement de lourdeur, donc on parle de matérialiste
allemand.
Il peut y avoir quand même des choses un peu inquiétantes dans le texte. Cet imposant quartier de bœuf posé sur un trépied à la broche de fer, comme ça, au milieu d'une scène qui fait assez bucolique, ou assez une scène un peu façon La Belle Équipe, quoi. Les gens qui sont à la campagne, qui ont invité des amis. Et puis, cette broche de fer posée sur un trépied, un imposant quartier de bœuf. Sachant qu'après, c'est le marché d'art qui surveille la dame, qui pense l'huile et le vinaigre, et qui se demande quoi faire avec le marchand d'art qui la regarde. Enfin, pourquoi? Elle doit empoisonner quelqu'un avec sa salade? Il y a quelque chose. Pourquoi la responsabilité était trop grande pour une si petite personne? Si elle a un restaurant sur le bout de niche, elle sait faire une sauce salade, elle n'a pas besoin que le marchand d'art la regarde.
Non, je pense qu'elle est.
Alors peut-être qu'il y a dans ce texte finalement.
Il y a du non-dit.
En effet, avec une ironie, dans ces cas-là, le matérialisme serait bon. Il y aurait quelque chose d'une petite nouvelle policière ou quelque chose d'un peu plus
éventuellement
qui pourrait, mais peut-être que c'est une obsession, se dessiner. Oui. Peut-être qu'il ferait rôtir un ennemi qui
dirait. C'est que le bœuf, c'est sanguinolent. Et effectivement, il y a quelque chose d'un peu effrayant.
Moi, c'est juste pour. Je pense qu'elle est chanteuse. C'est une espèce de piaf qui fait la cuisine.
Oui, mais le marchand d'art, c'est pas plus. Non.
Parce que j'étais femme de peintre. Et donc, mon ex-mari a peint. Et c'est souvent les femmes qui doivent amadouer les marchands
pour manger.
Ça n'empêche pas de finir la manche.
Parce que le peintre est maudit.
Et après, dans l'atelier, on commence à retourner les tableaux et à les montrer une fois que tout le monde est rassasié.
Gérard Mandy, il y a une dernière chose avant de lâcher des noms.
La dernière chose, c'est sur l'idée justement que ça puisse être une traduction ou écrit par un auteur étranger vivant en France. Il y a juste pour moi un indice, c'est quelques-unes de ces piquantes chansons.
Oui, pourquoi c'est pas terrible, piquantes chansons.
Ça, c'est bizarre. Alors, ça pourrait être un auteur allemand vivant en France et qui écrit ça, et qui, du coup, le matérialisme serait non plus de l'ironie ou peut-être une.
Et son pain quotidien.
Le narrateur va prendre la parole pour défendre le matérialisme.
Voilà, et ça serait à ce moment-là plutôt quelque chose de l'ordre des souvenirs d'un auteur qui raconterait son expérience à Paris. Qui
et alors vous avez un nom?
Je tenterais volontiers Rilke.
Vous voyez. L'étranger qui vit à Paris, c'était ma théorie de départ, ça.
Voilà, Rilke.
Rainer Maria.
Dans ses souvenirs Rilke. Ou dans sa correspondance.
D'accord. Et un Rilke, un Eval Massy.
Je sais pas, Maurice Leblanc.
Je sais pas.
Non, mais.
Vous êtes là pour savoir.
Non, mais je suis tellement espantée par l'idée de Rilke que ça a chassé tous les noms qui assommaient comme ça dans ma tête, très vaguement, petit papillon de noms. Et donc, je mets du lourd.
Maurice Leblanc. Bon, Rilke a tué le jeu pour vous.
Oui, mais j'ai lu beaucoup de ces tout petits textes, plus ou moins autobiographiques, mais ça ne me rappelle pas ça.
Ah, mais Gérard a lâché ça comme ça, comme une bombe, pour nous faire sursauter.
Et donc,
il a réussi.
Et ce serait un sculpteur et non pas un peintre, ce serait Rodin.
On ne sait pas.
Et alors, on a deux très bons noms, Sophie d'Ivry. Est-ce que vous avez une idée, vous aussi?
Moi, je penserais pour un étranger, mais un américain, pour Hemingway.
Ernest.
Pour du gros, pour mangeur de bœuf. C'est intéressant.
Bon, stylistiquement, c'est pas forcément ça, mais dans le regard sur la France.
Oui, pourquoi vous pensez qu'il était végétarien, Yvan?
Non, au contraire, je le vois comme.
Bon,
ça.
Alors, nous avons. Trois très beaux noms, Rainer Maria Rilke pour Gérard Mordilla, Maurice Leblanc pour Eval Massy, Ernest Hemingway pour Sophie d'Ivry. Y a-t-il un de ces noms dans votre liste de trois par hasard?
Oui, François.
Oh non.
C'est le nom d'Ernest Hemingway.
Oh, Sophie. Sophie a peut-être trouvé celui qu'il ne fallait pas trouver, le piège. Alors, qui sont les autres?
Il y a deux autres noms, il y a Bertolt Brecht. Et Maurice Chevalier.
Hemingway, Maurice Chevalier. Livre de souvenirs, alors.
et Bertolt Brecht. Bon, ça vaut le coup de réfléchir. Alors, d'abord, je m'adresse à vous, Sophie Divry, puisque vous aviez nommé Hemingway. Est-ce que vous le gardez ?
Alors, je vais garder Hemingway, parce que quand on a la chance d'avoir un des trois noms, celui qu'on a choisi, si jamais j'avais gagné du premier coup, il ne faut pas rater ça.
Oui,
mais c'est vrai que les Maurice Chevalier serait intéressant aussi, parce que quand même, ça pourrait être en effet un livre de souvenirs. Après, le boule-miche, les piquantes chansons, c'est peut-être un piège. Voilà. Mais je vais garder Hemingway, sur le côté de la traduction.
Oui.
Et en effet, toute cette période où il a vécu à Paris, où il aurait été invité, et donc il pourrait écrire ça. Dans quoi, je ne sais pas.
Alors, Sophie Divry, Ernest Hemingway, comme au premier tour. Voilà. Moi, si juste je peux vous dire quelque chose, mais c'est juste mon sentiment, c'est que Maurice Chevalier serait plus rive droite.
Ah,
il chantait sur la rive droite plus. Voilà, bon, il a le droit de traverser la Seine pour aller se promener sur le boule-miche. Ah non, c'est vrai que vous n'êtes pas parisienne.
Non, mais je reste sur mon Hemingway.
Ah ben oui, ça c'est clair. Gérard Mordillat.
Ben moi, je vais rester sur l'allemand, je vais garder sur Brecht.
Oui.
Voilà, je n'ai pas de souvenir très précis de comment il aurait pu ni où écrire ça.
Oui.
Mais après tout, les piquantes chansons. Allons-y, et le matérialisme dans la philosophie allemande, c'est à mon avis quelque chose qui devait le concerner, donc essayons.
Allez, un Brecht pour Gérard Mordillat et Eva Almassy alors.
Alors, moi, je ne crois pas à Hemingway parce qu'il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas quelque chose, et puis parler de responsabilité, il mettrait cette responsabilité en scène. Non, et il ne décrit pas comme ça, il est sans cesse en action. Il y a quand même peu d'action, à part tourner la broche, il y a peu d'action
salade.
Là-dedans. Et la salade, n'oublions pas.
Et
mêler l'huile et le vinaigre.
Oui. Donc pas d'Hemingway pour vous, Eva.
Et pour la même raison, pas non plus de Bertolt Brecht, parce que il manque tout ce qu'on sait de lui. C'est-à-dire, les personnages-là sont quand même fondus dans ce nous. C'est une assemblée. Lui, il dramatise et il symbolise la mère courage ou les quatre sous. Enfin, tout est contrasté là-dedans et là, tout est homogène. Donc, je serais plus genre mémoire, même si j'avais cru à une nouvelle. Et puis, parce qu'il y a quand même des petites répétitions par-ci, par-là qui ne sont peut-être pas de la plume d'un grand auteur. En plus, je peux garder le prénom. Maurice,
comme voilà, Maurice Leblanc, mais Maurice
Chevalier. Moi aussi,
Chevalier.
Je garde quelque chose.
Alors, ils ont leurs arguments, Patrick Beignet, ils les ont bien défendus. Sophie Divry garde Hemingway, non, avant, c'était le premier tour. Gérard Mordillat opte pour un Allemand, Brecht. Et Eva Almassy pour Maurice Chevalier, qu'elle connaît très très bien.
Mais qui certainement cornait beaucoup avec ses autos.
Ah ben oui, parce que oui il conduisait
depuis
très longtemps.
En fait, c'est la seule action du texte. Oui. De quoi.
Alors, il y a forcément un ou une gagnante.
Ben oui.
Et alors ?
Eh bien, il y a un gagnant, c'est Gérard.
Oh.
Il ne gagne pas forcément sur la sensibilité littéraire, mais j'ai que Rilke ait pu écrire ça. J'en suis resté aussi étonné
au premier tour, oui.
Qu'elle était Eva. Rilke quand même moins rigolo que Brecht. Hein.
Oui, c'est vrai.
Oui.
Mais ça dit, tu as parfaitement analysé les choses. C'est une nouvelle de Brecht qui est publié dans un recueil, mais les recueils sont plus ou moins factices. Hein. On le trouve en France dans le recueil qui s'appelle « La vieille dame indigne ».
Ah, qui a fait René Alliot au cinéma.
Au cinéma, voilà.
Exact. Oui.
Et cette nouvelle s'appelle « Civilisation alimentaire ».
Ah.
Et
ouais.
Là, vous avez le début.
Oui.
Et ensuite, c'est un débat sur la façon de manger des Allemands, matérialistes ou pas, et des Français. Mais c'est surtout sur la nourriture allemande qu'il développe.
Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de la discussion ? Vous les avez trouvés comment, tous les trois ?
Je les ai trouvés intéressants, intelligents même,
oui.
Pour aller très très loin. En particulier, ce qu'a dit Gérard du côté allemand.
Oui.
Encore une fois, s'il n'avait pas
prononcé le nom de Rilke, oui.
c'était extrêmement juste. Et les deux autres ont parfaitement...
Les deux autres, c'est Eva Almassy et Sophie Divry. Je rappelle.
Ont parfaitement suivi le chemin que j'espérais les voir suivre.
Ah ben voilà.
Mais c'était tentant. Hein, aussi,
mais elles sont sympas toutes les deux. Elles tombent gentilles, dans vos pièges. Alors vous leur dites quoi?
Je leur dis bravo d'avoir merci. Perdu.
Des papous dans la tête, c'est fini pour ce soir. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin, Bernard Laniel, Stéphane Desmonts. Un numéro des papous à télécharger sur franceculture.fr pendant un an, c'est le podcast. Au revoir, à samedi prochain 20h et passez une très belle soirée sur France Culture. Dans quelques instants, la fiction arrive.
Quoi?